Bienvenue à Compte Complet, notre balado hebdomadaire sur le monde du baseball à la maison en compagnie de Marc Griffin. Il y a beaucoup de sujets aujourd'hui. Marc, on va commencer par faire le tour d'une section dans le baseball majeur. En fait, nos prédictions étaient bonnes, je dirais à 80%. C'est la section S de la Ligue nationale. On se doutait que c'était pour être serré. Ce l'est. Les Marlins sont derniers. Ça aussi, c'était prévu. Mais on prévoyait que c'était pas mal. Pour être pas mal plus relevé que ce l'est depuis le début de la saison. Et d'ailleurs, la dernière nouvelle qui touche cette section-là est tombée il y a quelques heures à peine, c'est-à-dire les Mets de New York qui ont congédié leurs deux instructeurs des frappeurs, dont Chili Davis, qui pourtant semblait bénéficier d'une réputation presque à toute épreuve, là.
Oui, je vais retenir le semblait. Pardon, semblait, là. Écoute, les Mets ne frappent pas. La plupart des équipes dans cette division-là, Alain, pour expliquer un peu ce qui se passe, ça ne frappe pas beaucoup, ça ne frappe pas assez. C'est à peu près le portrait de ce qui se passe dans la Ligue, pas dans la Ligue nationale, mais en fait dans tout le baseball actuellement. On sait que ça frappe beaucoup moins, mais on a l'impression là qu'avec bon, l'arrivée de Lindor, on pensait évidemment qu'on allait ajouter cet aspect évidemment à l'attaque avec. Non seulement la puissance, mais les vols de but. C'est pas ça qui est arrivé. Et dans le cas des Mets, plus précisément, Alain, c'est évident que le début de saison de Lindor, bon, il fallait quelqu'un bouge, en fait, quelqu'un paie le prix quelque part. Chez les Mets, on peut pas donner un contrat de 10 ans et voir le gars continuer à. Parce que on a fait le match des Mets dimanche, mais c'est pas des bonnes présences au bâton. Il n'y a pas de. Il y a quelque chose qui manque à Lindor, puis honnêtement, là, ça déteint sur tout le monde. Parce que lui est arrivé un petit peu en héros en disant on va brasser ça, mais malheureusement, les choses ne se sont pas produites ainsi. Fait que j'ai l'impression que les gars autour sont aussi affectés par le rendement de Lindor. Est-ce qu'on a consulté Lindor? Parce que vous savez, lorsqu'on congédie un instructeur ou deux des frappeurs, deux instructeurs de frappeurs, mais généralement, on demande un peu ce qui se passe aux vétérans de l'équipe ou à quelques joueurs. Alors, tu sais, alors c'est sûr qu'un va avec l'autre, évidemment, là, dans cette décision-là, en espérant que ça puisse fouetter Lindor et compagnie pour que les Mets puissent commencer à frapper la balle, là.
Ouais, parce que bon, oui, bon, à l'issue du match de dimanche, on était premier à la suite de la victoire ou de la défaite des Phillies, dépendant du point de vue. Là, on va y revenir aux Phillies dans quelques instants, là, mais écoute, on a gaspillé de. Des performances absolument magistrales de Jacob deGrom depuis le début de la saison. C'est des matchs qu'on ne reverra plus, cela, avant le match de dimanche. C'est 3 points par match. Oui, il y a des équipes qui avaient un OPS plus inférieur aux Mets de New York, dont les Phillies de Philadelphie. N'empêche que les attentes sont plus élevées que de jouer 500 cette année chez les Mets.
Ben, je te dirais que pour la plupart des équipes de cette division-là,
Oui.
mais ce que tu dis sur Jacob deGrom, c'est épouvantable, Alain. Ces gars-là, si on lui avait donné là, un point de plus pour une trentaine de départs, écoute, j'ose imaginer sa fiche. C'est le bonheur, c'est le meilleur, évidemment, c'est le meilleur lanceur du baseball actuellement. Mais il va falloir que ça bouge pas mal à l'attaque parmi toutes les équipes, si on veut évidemment qu'on ait cette division-là plutôt relevée à quoi on s'attendait, là.
Bon, rapidement, les Braves d'Atlanta, je pense que c'est le consensus, c'est l'équipe la plus talentueuse de cette section-là. Ronald Acuña Junior a été nommé le joueur du mois, il n'y a aucun souci. Freeman, ça va un peu moins bien. Acuña, dans l'ensemble, est moins bien appuyé. Et là, on vient de perdre notre receveur numéro un pour au moins 2 mois. Là, ça commence à dégringoler. Puis le rendement des lanceurs n'est pas au niveau attendu. C'est vrai que, bon, Soroka ne revient pas aussi rapidement qu'on l'aurait voulu. Mais bref, il y a quelques brèches à colmater dans le bateau des Braves présentement.
Écoute, c'est sûr que c'était un début de saison décevant, là, surtout au niveau des attentes, parce que plusieurs mettaient les Braves, tu sais, tu as les Dodgers, les Padres, puis après ça, tu as les Braves dans la nationale, là, et plusieurs même disaient que les Braves étaient, tu sais, parmi peut-être les 5 meilleures équipes du baseball sur papier, évidemment. Alors, c'est sûr qu'il va falloir que, bon, Freddie Freeman est en grande partie celui sur qui on compte. Évidemment, tu as un Acuña Junior, mais c'est Freddie Freeman, selon moi, le gros joueur dans cette équipe-là. Et tu parles de Travis d'Arnaud. C'est un gars qui frappait deuxième, troisième ou quatrième dans le rôle offensif, là. Bon, évidemment, Freeman frappe deuxième souvent, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un morceau important qu'on vient de perdre. C'est pas juste un receveur avec. Bon, on connaît la synergie avec les lanceurs. Tu viens de perdre un gars dans le milieu de la formation. Je connaissais Alex Antopoulos. Le téléphone aurait déjà commencé à sonner à quelque part, Alain, parce qu'évidemment, bon, on est en deçà des attentes. Mais heureusement, les autres équipes aussi dans cette division-là. Donc, ce qui pourrait peut-être faire en sorte qu'Antopoulos peut être un petit peu plus patient dans la recherche éventuelle de receveur numéro un.
Oui, chez les Nationals de Washington, on va passer rapidement, Marc, mais j'ai l'impression que là, on joue sans Juan Soto. On se maintient à 500 jusqu'à son retour. Puis là, ben, on lance les dés en disant que nos trois partants principaux vont tirer le reste de l'équipe ensemble. Je pense que c'était le plan de match au début de la saison. Et là, en l'absence de Soto, si on joue pour 500 jusqu'à son retour, les espoirs sont là du côté de Washington.
Oui, bien, c'est le plan de match. Hein? Les trois partants, ouais. Évidemment, c'est le plan de match. Mais Soto, dans le plan de match, il est là tous les matchs. Et ouais. tu fais bien de mentionner du fait que si on peut maintenir là, un certain rythme avant son retour, lui peut faire évidemment toute la différence dans une formation. Mais hey, j'avais pas quand même le début de saison de Ryan Zimmerman. Tu sais, lui qui n'avait pas joué l'année dernière. On l'a signé évidemment à faible coût, il faut le dire. Et bon, écoute, c'est pas si mal du tout son affaire. Alors, ouais. Mais je m'attends à ce que les Nationals soient pas mal meilleurs aussi. En fait, les quatre équipes là, de la division qu'on a nommées, on devrait voir de la meilleure balle là, au cours des prochaines semaines. Et ça va non, ça va rester serré, mais ça va être des matchs de meilleure qualité parce que ouais. On n'a pas parlé trop de la défense des Phillies, là, mais ça a été très difficile au cours des derniers matchs. Là.
Est-ce que tu penses que le poste de Joe Girardi pourrait être en péril parce que les attentes sont élevées à Philadelphie? Dimanche, on a vu ce qui s'est passé. C'était horrible en défense. Manque de concentration en plus. Les erreurs physiques, oui, les gérants vont les accepter, les erreurs physiques. C'est pas ce à quoi on a assisté dans le match de dimanche. Puis avant le match, on a regardé un peu des statistiques défensives. Puis, excuse, mais les Phillies sont bons derniers dans la Ligue nationale présentement. C'est pas une équipe comme Joe Girardi les aime. Là.
Non, je pense pas que son poste est en jeu. Par contre, Alain, on va donner du temps à un vétéran gérant comme Girardi, mais c'est sûr que ça doit pas, ça doit brasser un petit peu là, à l'intérieur des bureaux d'entraîneurs pour qu'on puisse trouver un moyen parce que il y a les erreurs physiques, Alain, mais il y a les erreurs mentales. Puis ce qu'on a vu lors du match au cours du week-end, tu peux pas laisser un gars entrer de même pour créer l'égalité alors que tu décides simplement. Là, je ne veux pas pointer Rhys Hoskins, mais dans ce cas-ci, il a mal paru en lobant pratiquement la balle à son coéquipier, comme si on prend pour acquis que personne ne bouge. Tu veux pas voir ça dans cette section-là, surtout pas dans cette section-là où, évidemment, une victoire de plus en fin de la saison peut faire une énorme différence.
Oui, oui. Il y a un absent quand même important. Il faut le mentionner, John Segura, qui avait un bon début de saison, qui ne joue pas présentement. Puis, si on veut bouger chez les Phillies, il va falloir se trouver quelqu'un qui est capable de jouer au champ centre puis qui est capable de frapper moindrement parce que on n'a aucune production à cette position présentement et il n'y a pas de frappeur de choix. Donc, c'est dommage à dire, mais présentement, on joue à 6. J'ai inclus le deuxième but. Bon, maintenant, il n'y a rien prouvé encore. Je ne sais pas que c'est un retour automatique. Je dis juste qu'avec ce qu'on a présentement, l'attaque se limite à 6 joueurs. Donc, ça veut dire, théoriquement, qu'il y a 3 manches au cours du match où les lanceurs n'ont pas travaillé trop fort. C'est de la pression, ça, sur le haut d'alignement des Phillies.
Bon, exact. Écoute, encore une fois, on risque de se répéter. C'est tellement une section relevée qui va être serrée jusqu'à la fin. Si tes frappeurs 7-8-9 produisent, ou en fait, peut-être pas 7-8-9 dans la Ligue nationale, mais pratiquement 6-7-8, il va falloir que ça bouge un petit peu plus. Puis effectivement... Ouais. Moi, je suis convaincu qu'on est à la recherche d'un champ centre, Alain. On peut pas avoir... La ligne du centre, oui, je comprends qu'en défense, c'est important, mais dans le baseball d'aujourd'hui, votre joueur de centre est un... C'est un gars de haut de l'alignement, c'est un gars qui va produire des points, donc c'est important que les Phillies puissent avoir un minimum de production à ce niveau-là en attaque.
Oui. Un petit mot sur les Blue Jays de Toronto. Bon, Vlad a recommencé à frapper comme on s'y attendait lorsqu'il est arrivé dans le baseball majeur. Meilleure condition physique, là, il est en train de démontrer que c'est pas de la chance. La balle est partie vite. Là. On se parle ce mardi et lundi, dans le premier match sur la côte ouest contre les Aces d'Oakland, les deux balles frappées les plus solidement dans le match a été par Vlad Guerrero. Des balles frappées, s'il vous plaît, au champ opposé. Ça démontre juste la vitesse de son bâton. On en a parlé de Vlad Junior. Springer est revenu. Ça fait du bien le temps que ça a duré, Marc. Est-ce que ça t'inquiète un peu de le voir tout de suite sur la liste des joueurs blessés? Ben, pas, il n'est pas blessé
Ça
sur la liste officiellement, là, mais bon.
Non, non. Ben, je dirais que ça m'inquiétait. Tu sais, lorsqu'on l'a mis sous contrat, bon, Springer a des bonnes saisons, mais tu sais, bon, on vieillit un petit peu. Ça peut devenir un joueur fragile. Je ne dis pas que ça m'inquiétait au point de se dire, bon. Mais la blessure de début de saison, en fait, bon, pas craigner le pire, mais ça partait moins bien, cette longue relation, et on voyait l'enthousiasme qu'on avait autour de la formation des Jays. Puis là, pouf, le gars que tu vas chercher n'est pas disponible au départ. Effectivement, il a fait sentir, fait résonner son bâton à son retour, mais moi, ça m'inquiète un peu. Je comprends qu'on veut être prudent, mais à la limite, Alain, si on n'avait pas été à 100% sûr, pourquoi le ramener? T'sais, j'aurais aimé mieux qu'on le ramène peut-être deux autres matchs, t'sais, deux, trois matchs ou 3 jours plus tard pour s'assurer, évidemment, qu'on se retrouve pas dans la même situation. Puis là, les Jays parlaient de fatigue. Bon, je pense qu'il faut lire un petit peu entre les lignes, là. On est, le fameux quadriceps, là, c'est pas évident. Puis il a pas joué encore, évidemment, au champ centre dans tout ça. Donc, c'est à surveiller, mais c'est sûr que lui, dans la formation, ça donne une autre dimension à cette attaque des Blue Jays de Toronto. Oui, tu fais bien de parler de Vlad Guerrero. En passant, là, c'est pas de la. Oui, il est bon, puis oui, il était supposé d'être bon, mais c'est un gars qui travaille extrêmement fort et faut pas négliger le fait qu'à tous les jours, tous les exercices au bâton, ce gars-là s'assure de frapper ce qu'on appelle l'intérieur de la balle, donc passer ses mains près de son corps. C'est pour ça qu'en ce moment, il y a du succès, qu'il est capable de frapper la rapide à 96 à l'intérieur ou attendre cette balle à effet et de la frapper au champ opposé. Et on l'a souvent dit, si on compare père-fils, écoute, honnêtement, là, puis là, on parle d'un gars au temps de la renommée, père, mais je pense que Vlad Junior est aussi bon frappeur, mais plus discipliné. Fait que s'il peut rester en santé, je pense que ses chiffres éventuellement, je ne veux pas y mettre de la pression là, parce que son père est au temple de la renommée, mais ce que l'on voit à 22 ans, c'est assez impressionnant. Alors, s'il peut maintenir cette façon de faire, cette façon de travailler, je pense que les Jays en ont tout un là, dans leur formation.
Ouais, remarque, tu peux parler de quiconque comparé au père, quiconque est comparé à lui sur le plan de la discipline, on va dire qu'il y en a plus. Ça c'est clair de ce côté-là. Alejandro Kirk, malheureusement sur la liste des joueurs blessés, commençait à frapper. Est-ce qu'il était en train de ravir le poste à Danny Jansen?
Écoute, je suis pas certain qu'on est encore rendu là, parce que bon, tu sais, Alain, moi, mes fameux 40 premiers matchs, là, j'y tiens beaucoup. Puis d'ailleurs, Jansen, je sais pas si c'est un hasard, mais depuis qu'il a repris son poste véritablement numéro un, parce que Kirk est plus là, il s'est mis à frapper. Bon, tant mieux, parce que tu sais, on parlait de minimum en attaque pour les voitures de centre des Phillies, ça prend un minimum en attaque du côté de Jansen. Et je pense que la pression que Kirk a mise sur Jansen a fait en sorte qu'à un moment donné, au départ, ça lui a nui, là, peut-être que ça l'a aidé. Toujours est-il que c'est une perte qui est plate parce que voilà un gars qui est en train de faire sa place. C'est pas le gars physiquement là, qu'on fait waouh, quel receveur, quel athlète. Mais quand il fait le travail, puis il frappe, puis les lanceurs aiment lancer à Kirk. Donc, sur ça, tu sais, les blessures, on les choisit jamais, les moments de blessure, c'est clair. Mais là, de ce côté-là, là, je trouve ça très, très dommage pour lui. Parce qu'écoute, son coup de bâton, là, surtout là, les 4-5 derniers matchs avant sa blessure, ça donnait, écoute, une formation là, de 9 frappeurs. Tu sais, là, on parle que Kirk frappait dans le bas de la formation. Ça vous donnait là, toute une formation avec énormément de profondeur. C'est évident qu'avec Jansen ben, en attaque, on est un peu perdant actuellement, alors en espérant qu'il puisse élever son jeu d'un cran un petit peu. Ceci étant dit, Jansen est un excellent receveur défensif, donc peut largement compenser parfois par quelques lacunes en attaque.
Oui, ça prend un minimum par contre. Puisqu'on parle de Kirk, j'aimerais ça qu'on parle un peu de la façon dont les joueurs, surtout, bon, la situation actuelle fait en sorte qu'on n'a pas joué l'année passée. Il n'y a pas eu de baseball de ligue mineure, c'est dans ce sens-là. Donc, il y a des joueurs qui ont été pénalisés. Kirk se retrouvait au site d'entraînement des Phillies. Lui avait, bon, un peu d'expérience au Mexique, mais c'est un gars qui avait joué, je pense, dans la Ligue du Midwest l'année précédente. Puis là, se retrouve dans le baseball majeur. On a parlé beaucoup du fait, c'est un fait, on va en parler tantôt, du fait que les lanceurs lancent plus fort que n'importe à quel moment dans l'histoire du baseball. Ça s'avère aussi dans le baseball mineur. Tu as joué dans le baseball mineur. Les balles rapides dans le A arrivent pratiquement aussi vite que dans le baseball majeur, avec moins de contrôle. Donc, la vitesse des mains est quand même mise à l'épreuve. On vous teste au baseball mineur, mais comme tu l'as mentionné, les jeunes sont mieux formés qu'ils l'étaient. Même dans le A moins fort, là. Bon, il y a trois ligues de A fort, la ligue du Midwest, bon, c'est une longue saison, mais c'est un petit peu en bas de la ligue de la Floride, de la ligue de la Caroline, puis bon, la ligue de la Californie. Ça a changé un peu, là, mais on va parler là, de ce qu'on a connu au cours de traditionnellement. Donc, et là où je vais en venir, est-ce que la ligue du Midwest a préparé un joueur pour jouer au baseball majeur mieux que ça l'était, par exemple, quelqu'un qui serait passé par là à l'époque où tu jouais?
Ben, écoute, oui, Alain, étant donné que, tu l'as bien mentionné, les gars du A, la différence entre A et 2A, c'est que le gars du A, talent, là, c'est la même affaire. Là. Je veux dire, tout le monde a du talent, tu sais que professionnel, tu es rendu dans les ligues de A fort, tu as du talent. Bon, maintenant, il reste des choses à peaufiner. Tu as parlé de lanceur. Bon, il lance à 95, 16, 17, mais pas encore un contrôle parfait ou une balle à effet qui peut combiner avec ça. Tandis que dans le 2A, oups, là, on est en train, tu sais, de faire le travail au niveau, bon, justement, de peaufiner cette balle rapide ou cette balle à effet-là. Et là, il faut le faire de façon plus constante. C'est à peu près les différences qu'on retrouve. Alors, c'est sûr que Kirk, moi, au début, je me disais, hey, il arrive du A, puis il agit comme receveur à des gars qui, bon, on s'entend, là, des gars qui lancent fort, des gars qui la balle bouge. Mais c'est ça, c'est qu'il arrive, dans le baseball d'aujourd'hui, c'est incroyable à quel point ça a évolué, Alain. Tu sais, dans notre temps, là, les gars qui lançaient 95, un, il n'y en avait pas beaucoup. Puis deux, eux autres, ils se rendaient assez rapidement dans le 3A parce que, bon, c'était exceptionnel. Alors, le gars du A, ben, c'est le gars qui lançait 90, 91, qui la balle bougeait beaucoup, puis qui essayait de coller des victoires pour impressionner l'organisation. Mais là, un receveur qui agit pour un gars qui lance 90, 91, puis whoop, tu t'en vas les majeurs directement. Les gars lancent 96, 17 avec pas mal plus de mouvement. C'est une adaptation. T'sais, moi, on m'avait toujours dit, ça te prend 1000 présences au bâton, ou 1000 manches en défense, ou 1000 manches lancées. Bon, on pourrait débattre là, du nombre de manches, mais c'était un peu la philosophie que tu avais. Il fallait que tu passes tout ce temps-là dans la ligue mineure pour vraiment te former. C'est moins vrai aujourd'hui parce que, justement, dans le fort, les gars lancent 95 000 à l'heure. Donc, le receveur, lui, il est prêt, il est prêt. Il est même meilleur parce que les gars ont plus de contrôle en haut. Puis, en même temps, bien, il a affronté ces gars-là. Donc, on va voir. Tu sais, Alain, on en a déjà parlé, mais ce qui se passe dans les rangs mineurs actuellement dans le baseball professionnel, je ne dirais pas que c'est une révolution, mais la manière d'un joueur, je vais dire normal, je ne parle pas du gros prospect qui, lui, bon, évidemment, a toutes les chances, mais tu sais, un joueur repêché habituellement, bon, 5, 6, entre 5 et 10e ronde, peu importe, sa façon de se rendre dans les majeures, elle va être maintenant très, très différente que ce qu'on trouvait il y a peut-être là une dizaine d'années, avec, évidemment, on a enlevé des équipes et tout ça. Donc, le baseball change, mais c'est-tu quoi la bonne nouvelle? Je sais qu'il y a des villes qui ont perdu leurs équipes et tout ça, mais la bonne nouvelle, c'est que le calibre de jeu va augmenter. Les ligues indépendantes vont être meilleures, vont avoir des meilleurs joueurs à ce niveau-là, et les organisations vont avoir moins de joueurs, donc vont pouvoir se concentrer davantage au développement de ces joueurs-là. Je sais que ce n'est pas populaire, encore une fois, là, au niveau de certaines villes, mais elle a fait du sens, cette décision-là, quelque part, pour améliorer le jeu d'à peu près tout le monde. C'est dans 5, 7, 8 ans qu'on va voir vraiment la différence avec ça, là.
Oui, ben en fait, j'ai l'impression que pour 2, 3 ans, là, ce à quoi on assiste, là, ça vient de commencer. La saison du baseball mineur vient tout juste de commencer, là. Puis j'ai l'impression que, ben d'ailleurs, oui, j'allais dire, c'est un gros laboratoire. Et en fait, à plusieurs niveaux, là, il y a des tests il y a des trucs qu'on va tester là, dans ces ligues-là. Puis,
Ouais.
mais outre ces nouvelles règles qui seront testées, c'est le développement des joueurs, effectivement, Marc, comme tu le mentionnes, qui il faudra peut-être scruter davantage pour voir exactement quelles seront les répercussions des décisions qui ont été prises dans tous ces changements. Écoute, les Dodgers de Los Angeles, à un moment donné, tout le monde disait, mon Dieu, ils vont perdre combien cette année? Est-ce qu'ils vont gagner 120, 130? Oups, d'un coup, C'est revenu assez vite. Hein. Au baseball, tu dis que tu vas en perdre quoi? Tu vas en perdre 60, tu vas en gagner 60.
Tu vas en gagner 60.
C'est ce que tu vas faire c'est ce que tu vas faire avec le reste qui va déterminer. Puis ça s'est appliqué aux Dodgers et là, on frappe pas mal moins. Nonobstant dimanche, là, où il y a eu 7 points produits et 8 de la part de BT et Pollock, là, ça c'était l'exception qui confirme la règle. Mais là, on vient de perdre Dustin May et on vient de le perdre pour longtemps parce que comme tu l'anticipais, ce que tu avais entendu comme réaction, là, ça s'est malheureusement avéré, c'est-à-dire c'est l'opération Tommy John.
Bon, écoute, Alain, lorsque quelqu'un te décrit qu'il a senti une forme de brûlure dans le coude, tous ceux qui ont subi l'opération ont dit « Oh, oh! » Et ça n'a pas pris de temps. 24 heures plus tard, on avait pratiquement le diagnostic. L'autre de perte, l'équipe qui, on se demandait « Comment on va faire pour faire lancer tout le monde? » Parce que vous oubliez que David Price revenait au jeu. Gonsolin, qui a démontré des bonnes choses l'année dernière. Évidemment, avec Dustin May, là, les trois ne sont plus là. Ils ne sont pas là pour un petit bout de temps. Donc, on va retester cette profondeur de l'organisation. Les Dodgers ne font pas exception avec ces joueurs blessés-là. Je sais que je suis fatigué avec ça, Alain, mais on va entendre une quarantaine de matchs. Ce que les Dodgers sont en train de prouver, dans le fond, c'est que, oui, ils ont une très, très bonne équipe, mais c'est des humains, c'est des gars. Ils vont tomber dans des passages à vide. Ça va arriver sur une longue saison de 162. Faut oublier là, qu'on passe de 60 à 162. Ouais. Donc, je ne suis pas trop inquiet. Là. Bellinger va revenir. Seager va retrouver ses repères. Il y a quelque chose là quand même. Ça reste l'équipe favorite, peu importe actuellement, dans la Ligue nationale.
Puisqu'on est dans la section ouest de la Ligue nationale, on va rester là, Marc. Il y a deux semaines, les Rockies du Colorado ont procédé à un changement majeur, c'est-à-dire que le directeur général, selon la version officielle, a quitté son poste. On vient tout juste de nommer celui qui va le remplacer par intérim. Il s'agit de Bill Schmidt, c'est Jeff Bredich qui est parti comme directeur général, remplacé par celui qui, occupait et occupe encore le poste de vice-président au recrutement. Je me demande, Marc, s'il y a un poste plus difficile à occuper dans le baseball que directeur général. Les Rockies du Colorado, avec tous les défis que ça représente, c'est que là, on est quoi? On est à peu près 25 ans, là, et on approche en fait des 20 ans là, de c'est quoi? 25 ans à peu près. Bon, les Rockies arrivent, là, on arrive 30 ans, là, le 30e anniversaire. C'est quoi la recette pour gagner au Colorado dans le stade dans lequel on joue, puis dans le contexte dans lequel on joue? Il ne faut pas se leurrer, Marc, on aura beau... On a changé des balles, on a tout essayé. C'est un défi pour les lanceurs de lancer là-bas. On n'a pas trouvé la recette, j'ai l'impression.
C'est parce qu'on dit que la balle a fait moins de mordant. On s'est essayé sur des lanceurs de balles rapides tombantes, mais ça reste que la balle, elle voyage bien. C'est pas évident. C'est un énorme défi. Tu sais, les Rockies, on ne pense pas que Trevor Story va passer toute la saison là-bas, parce que si tu veux rebâtir, parce qu'il va falloir rebâtir. Je sais que c'est plate à entendre du côté des partisans des Rockies, mais on a le 27e, donc on est dans les bas-fonds au niveau du réseau de filiales. Là, je parle de qualité du réseau avec le nombre de joueurs d'avenir. Et tu ne peux pas bâtir avec ça, là. Alors, il va falloir que tu commences à repêcher, que tu ailles chercher des jeunes joueurs... un peu comme les Rays. T'sais, les Rays, ils l'ont fait la recette. Là, je veux dire, à quelque part, il y a une recette gagnante qu'il va falloir qu'on applique du côté des Rockies du Colorado. Mais on va s'entendre tout de suite. Là, c'est 3-4 grosses années difficiles qui s'en viennent. Mais je ne sais pas, Alain, moi, j'opterais vraiment pour ce type de lanceur. Des gars, évidemment, tout le monde lance 95+, là, mais t'sais, des bonnes balles rapides tombantes comme tir principal, là, forcer évidemment le plus souvent possible l'adversaire a frappé des balles au sol. Tu sais, tu peux pas arriver là avec un gars que c'est son changement de vitesse est son meilleur tir. Tu peux pas arriver avec un gars qui lance, tu sais, mettons un Carl Hendricks, par exemple, qui a poussé à 88, qui déjoue tout le monde, mais s'il en échappe une, c'est sûr qu'elle est de l'autre bord. Fait que, tu sais, il va falloir trouver un profil de lanceur, selon moi, et y croire, puis tu sais, rester avec et pour voir qu'est-ce que ça peut donner, parce que regarde, tu l'as dit, là, ça fait bientôt 30 ans. On a eu quelques bonnes saisons, à un moment donné où on s'attendait, tiens, il y a quelque chose qui, il y a une recette qui semble fonctionner. Puis l'année suivante, habituellement, c'était à recommencer. Donc, je veux dire une chose, beaucoup de travail à faire de ce côté-là.
Oui, écoute, bon, Bredich a amené cette équipe-là en série, bon, en 2017 et 2018. Par la suite, il y a eu le contrat d'Arenado et c'est là où ça s'est gâté. Il y a eu un gros contrat avec les Rockies, avec promesse qu'on était pour bâtir quelque chose d'intéressant autour. Puis finalement, Arenado s'est senti trahi. Il y a eu une rencontre avec le directeur général où ça s'est très, très mal passé. Et on a été obligé, en fait, c'est le propriétaire qui a décidé dans l'entre-saison de dire bon, c'est correct, on va échanger Arenado. On n'a pas reçu grand-chose en retour selon la plupart des observateurs. Non seulement ça, mais on est pris en plus pour payer le quart du salaire d'Arenado, en plus de ne pas avoir obtenu grand-chose. Et là, ben là, on perd sur tous les fronts parce que là, c'est le directeur général qui part. Au-delà des défis. J'ai l'impression qu'on n'a pas de direction.
Ben, ce n'est pas une impression. Tu sais, Alain, dans le fond, la décision, c'est est-ce qu'on garde notre DG ou on garde Arenado? Puis là, tu regardes leur portrait global, les deux ne sont plus là. Sûr que quelque part, il y avait quelqu'un qui l'a raté. Là. Tu ne peux pas échanger un joueur. Je m'excuse. Je sais là, que bon, Mookie Betts est parti. Mookie Betts semblait vouloir s'en aller, même parce que les Red Sox avaient fait l'effort pour le garder. Mais tu perds des gars comme ça, là. Ça prend du temps parce que tu ne peux pas remplacer ça par un joueur. T'sais, ça va prendre un paquet de joueurs qui vont faire en sorte que tu perds ton âme, tu perds le gars qui était le visage de l'équipe carrément. Là. Je n'ai rien à voir Trevor Story, mais c'est Nolan Arenado là, qui. Parce que les Rockies s'amenaient dans une ville. C'est le gars que tu voulais voir jouer, évidemment. Mm-hmm. Alors, tu sais, Alain, c'est pas parce que... Moi, je te dirais ça. Faut que je fasse attention à mes mots. Tu sais, moi, là, je raconte une petite histoire. Lorsque j'ai signé avec les Dodgers de Los Angeles, tu sais, tu dis Dodgers de Los Angeles. C'est gros, c'est incroyable, c'est bon. Et honnêtement, là, j'étais un peu déçu. Dans le sens que tu sais, c'est pas... Comment je te dirais ça? Les gens étaient corrects, c'est des gens compétents. Là, je parle du directeur de ligue mineure, puis l'assistant au directeur général, mais c'est pas parfait. Tu sais, c'est pas comme hyper discipliné, puis on prend des décisions. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que j'étais un peu... Je pensais que c'était un petit peu plus haut de gamme, si tu veux. OK? J'avais avec les expos, même constat. Dans le sens que... on embauche du monde, puis parfois il est bon, parfois il est moins bon, puis des fois je me demande à quel point on va faire nos devoirs pour aller chercher ce genre de personnes-là. Mm-hmm. Ça me fait penser un peu à ça, c'est que là, on arrive avec les Rockies, puis ta question était hyper pertinente, tu sais, on sait où on s'en va vraiment avec les Rockies du Colorado? Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'on n'a aucune idée. c'est vraiment mon opinion. Oui, vas-y Alain.
Ben, j'allais dire, bon, Trevor Story, la question, dans le fond, c'est pas de savoir s'il va être échangé, c'est de savoir si au 31 juillet, ce sera fait. Ouais. Moi, j'ai l'impression que la question, c'est un peu ça en ce qui concerne Dustin May. Au cours du dernier week-end, il y a eu quelques discussions corsées. Et je veux qu'on reparle un peu de l'émotion dont on a parlé un peu plus tôt lors de nos balados depuis le début de la saison, en faisant référence à Fernando Tatis, et qui est très expressif quand il joue sur le terrain, avec le gros sourire et tout ça. Bon, et il y en a qui ont peut-être un trop plein d'émotions. Il y a quelques lanceurs qui étaient très contents d'avoir retiré sur des prises leurs adversaires dans des circonstances qui étaient cortées. Et ça a fait réagir les frappeurs. Là, est-ce que c'est des frappeurs qui sont trop chatouilleux ou on en a peut-être mis un peu trop? Parce que je veux juste préciser une chose, c'est pas la première fois que des lanceurs agissent de la sorte. En te donnant des exemples un peu plus tard, là. Il y a Alvarado et Adrian Garrett. Là. Bon, Alvarado avec les Phillies puis Garrett avec les Reds de Cincinnati. Ça n'a pas plu aux frappeurs, là, leur réaction après des retraits sur des prises.
La différence, Alain, à ce que tu dis, c'est que tu as démontré de l'émotion puis être carrément arrogant. C'est deux choses. Puis, dans le cas d'un. Tu sais, tout est dans le moment de le faire. T'sais, si tu frappes un coup de circuit en deuxième manche pour porter la marque à 2-0, là, bon, Je veux dire, je pense pas que c'est le temps de faire un bat flip, comme on dit. Là. Tu peux la regarder, tu peux faire, c'est correct. Il y a un petit spectacle à faire, bon, c'est correct. Mais tu comprends ce que je veux dire, c'est que mais le même circuit frappé en fin de neuvième avec les buts remplis, tu peux te lâcher lousse. Là, ce que j'aime pas, par contre, de ce qu'on a vu et les deux exemples que tu as mentionnés, c'est comme exemple, c'est comme dire, bon, lorsque José Bautista a frappé son fameux coup de circuit, là, imaginez s'il fait le même bat flip, là, pour employer cette expression-là. Là, après ça, il se retourne dans l'abri et regarde chacun des joueurs avec un sourire. Tu comprends? Là, ça n'aurait pas passé. Là, c'est de l'arrogance. Il a célébré, il a lancé son bâton, c'était parfait. Dans le cas de ce qu'on a vu là, au cours du week-end, on dirait que c'était prématuré. Il avait préparé avant même le résultat là, que je vais le rincer, lui. Là. Je vais lui dire ma façon de penser. C'est pour ça là, que c'est deux poids, deux mesures. Il y a ces deux exemples qui sont différents, dans, selon moi. Alors, oui, on peut démontrer nos émotions lorsqu'on est content. Dans le cas de du releveur des Phillies, là, il avait...
Alvarado.
Il avait exact, il avait réagi. Il s'était retourné, là, puis il avait fait comme une réaction. Ouais, on l'a eu! S'il avait décidé d'arrêter ça, là, ça aurait été parfait. Il a démontré une émotion, il était content. Là, il se retourne, puis il commence à pointer le frappeur. C'est là que j'embarque pas, puis il faut vraiment faire la distinction, Alain, entre démontrer nos émotions, d'être content d'avoir réussi à retirer ou frapper le coup sûr, mais là, de commencer à pointer, puis pointer le banc adverse, puis tu sais, à un moment donné, là, tu sais, c'est... Alors, c'est pour ça que faut être prudent parfois dans ce genre de choses.
Mais là, je te relance, Marc, parce que c'est pas la première fois qu'on voit des releveurs agir de la sorte. Dans les années 80, je me rappelle, un releveur, ça n'a pas fait long dans le baseball majeur, mais ceux qui l'ont vu à l'œuvre ne peuvent pas l'avoir oublié, l'animal. C'est comme ça qu'on l'avait surnommé Brad Leslie, qui, en fait, après un retrait sur des prises, t'as l'impression qu'il s'en allait comme Hulk Hogan, là, le lutteur, là, en montrant ses gros muscles, là, puis... J'ai l'impression qu'il était sur le point de détacher sa camisole et tout. C'est pas des premiers à exprimer de la sorte. Puis, rappelle-toi Dennis Eckersley, qui même envers des anciens coéquipiers des Red Sox de Boston, qui faisait comme s'il sortait le revolver puis le pointait vis-à-vis du frappeur qui venait de retirer sur des prises. Comme je te dis, je te dis pas que je suis d'accord avec Adrian Garrett et Alvarado, mais c'est pas la première fois que ça se fait. Je trouve que la ligne, quelquefois, n'est pas si nette que ça entre l'arrogance auquel tu fais référence et l'émotivité qu'on veut voir sur le terrain.
Probablement. J'ai aussi Rob Dibble en tête, là, Rob Dibble qui était capable de manifester un peu aussi. Moi j'ai joué avec Huguette Urbina, j'ai joué avec Carlos Perez dans les rangs mineurs. J'aimais pas non plus les gars mais j'ai honnêtement, j'ai toujours trouvé que c'était fait dans... Tu sais, Carlos Perez, à l'époque des Expos, il faisait régulièrement. Tu sais, ça faisait partie un peu de son personnage. Donc, tu sais, alors si quelqu'un le fait... Encore une fois, j'excuse pas Dennis Eckersley, là, mais tu sais, lui aussi, ça faisait partie un peu de sa façon de faire les choses. C'est pas surprenant. À la limite, là, lorsqu'il retirait un gars, on attendait voir, OK, ça va être quoi sa réaction. Tu sais, ça faisait partie un peu du spectacle. Et si tu le fais par mois, juste pour pointer un joueur en particulier, en tout cas, écoute Alain, ça va être un éternel débat, là, mais je pense que c'est vraiment là. Faut pas que ça devienne personnel. Il faut que ça soit une réaction émotive vis-à-vis de la situation qui se passe, puis elle pourrait être, à la limite, parfois même être plus exagérée, là, mais il faut que ça soit, tu sais, instinctif, c'est une réaction normale parce qu'on est dans le feu de l'action, puis la situation nous fait en sorte que, mais pas de pointer, là, en tout cas, selon moi, encore une fois, si tu le fais tout le temps, à chaque frappeur, à chaque fois que tu retires un gars, bon, ben écoute, on va s'habituer, puis les gars vont en rire plus que d'autres choses, ce qui n'a pas été le cas encore, là, avec les lanceurs dont on a fait mention. Là.
Bon, dernier sujet sur lequel on va élaborer un petit peu, parce que là, il y a un mois de jouer dans le baseball majeur. On a mentionné en début de balado, quand on a parlé de l'Est de la Ligue nationale, les statistiques à l'attaque sont en forte baisse. Le MPP, là, Aux dernières nouvelles, là, c'est autour de 700, puis on ne l'a pas atteint encore. Là. On est loin du 750 qu'on avait là, il y a deux ans à peine. Bon, la manque d'attaque chez les Mets, ça a coûté l'emploi aux deux instructeurs des frappeurs. J'ai jeté un petit coup d'œil sur les chiffres, Marc. Tu pourras peut-être élaborer là-dessus. Qu'est-ce qui a changé au fil des années? Puis là, ben, j'ai pris quand même, bon, je suis allé voir cette année, l'année passée, et là, j'ai reculé jusqu'en 1990. 90, 2000, 2010, 2020. Le pourcentage de prise des lanceurs est à peu près le même. Le pourcentage d'élan, ça m'a surpris, est à peu près, ça ne change pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de fluctuations. Le chiffre qui a changé le plus, c'est le taux de contact qui est passé de 80% mettons en 2010, là, c'était à 79, mais on s'entend que 79-80, ça ne changera pas grand-chose. Mais là, on est rendu à 72. Là, c'est une baisse de 10% par rapport à ce qu'on a vu il y a 10 ans à peine. Donc, plus d'élan dans le vide. Il y a une chose qui est établie, plus tu vas avoir de vélocité, plus tu vas avoir de retrait sur des prises. Vous n'êtes pas convaincu, demandez à Nolan Ryan, va vous le dire. Et tous ceux qui l'ont affronté. Puis, bon. Mais par rapport à ça, Marc, puis dimanche, on en a parlé brièvement, mais c'est là que je veux t'entendre. Je prends à admettre que la vélocité a quelque chose à voir, mais quand je vois des Kyle Hendricks, des Ryan Yarbrough, qui je serais capable de capter leur balle à main nue, là, qui ont un retrait sur des prises et plus par manche lancée, je me dis, il y a peut-être quelque chose dans l'approche des frappeurs là, qui a changé, qui a fait en sorte qu'il y a plus de retrait sur des prises qu'il n'y en a jamais eu.
Ben, c'est exact. C'est l'approche des frappeurs, Alain. C'est aussi simple que ça. C'est longtemps, là. Longtemps. Bon, oui, il y a eu des périodes de coups de circuit, là. On peut se rappeler la période de Babe Ruth. Puis, tu regardes l'histoire du baseball, puis tu la connais encore mieux que moi, Alain, mais tu sais, ça fluctuait, hein. Il y a eu des périodes où il y en a eu plus, des périodes où il y en a eu un petit peu moins. Mais ça reste que longtemps, l'approche était d'éviter le retrait sur des prises. Alors, tu pouvais, évidemment, bon, idéalement, je te dirais même qu'à un certain moment donné, il y avait beaucoup de frappeurs qui ne voulaient pas se rendre à deux prises. Et on voulait mettre la balle en jeu avant d'avoir deux prises parce que statistiquement, puis tu le sais très bien, Alain, un frappeur qui tombe à deux prises, bon, la moyenne chute drastiquement. Bon, ceci étant dit, c'est un peu à cause de ça, d'ailleurs, que l'approche des frappeurs a changé. Parce que statistiquement, à deux prises, même avec une approche de « je vais mettre la balle en jeu », je frappe quand même sous la barre des 200. Je suis plus proche de 100 que de 200. Là. Alors, c'est là qu'on s'est dit, pourquoi avoir une approche de contact tant que je peux avoir une autre approche agressive, donc en mode attaque, même à deux prises. Et c'est là que il y a eu moins de balles en jeu. C'est là que on travaille moins le compte. Puis quand je dis travailler le compte, là, on revoit de plus en plus, c'est-à-dire que des gars comme Bryce Harper, des gars comme, je pense sûr que c'est un peu plus flagrant, là, Bo Bichette. Alors, ces gars-là, là, en mode attaque, donc des comptes de deux balles, aucune prise, deux et une, trois et une, mettent beaucoup de jambes. Hein? Il y a ce qu'on appelle le fameux leg kick. Là. Les gars lèvent la jambe et ils veulent attaquer la zone. Et rendu à deux prises, ils ne lèvent plus la jambe. La jambe reste au sol. Donc, il y a une approche qui commence à revenir de se dire, finalement, je ne perds pas tant de puissance que ça, mais je vais quand même avoir une approche différente à deux prises. Et c'est pour ça, Alain, que je crois que ça va revenir, toute cette affaire-là. C'est-à-dire que là, on vit un moment où les lanceurs sont dominants. On n'a jamais fait bouger la balle autant à des vélocités aussi impressionnantes. T'sais, on le voit, là. Écoute, il y a des gars qui lancent 100 000 à l'heure, puis la balle bouge d'à peu près un pied. Là. J'exagère à peine. Alors, je pense que les frappeurs vont finir par trouver une solution de couper un peu dans leur élan, mais qui ne coupera pas cette puissance-là et qui va permettre donc d'avoir plus de balles en jeu. Ça ne ment pas, là, surtout que le baseball est un sport de statistiques. Un frappeur qui a deux balles, aucune prise, deux et une, trois et une. Écoute, Alain, puis tu le sais encore mieux que moi, depuis le début du baseball, ces comptes-là, les gars frappent au-dessus de 300 plus facilement. Alors, je pense qu'il faut juste resserrer un peu notre façon de faire au niveau de l'attaque pour comprendre un peu plus ce qui se passe. Mais les frappeurs, là, puis tu en as parlé tantôt, le nombre d'élans, n'a pas changé tant que ça au fil du temps. Donc,
Non.
je pense que l'approche va revenir de façon un peu différente, mais l'approche à deux prises devrait, selon moi, revenir un peu plus, voire un peu moins d'élan violent, parce que le lanceur va générer la puissance anyway. C'est-à-dire que le gars qui lance 95, j'ai pas besoin de dévisser comme je le faisais, alors qu'un gars lançait 87, 88 à l'époque. C'est pour ça que les frappeurs, selon moi, sont trop intelligents pour ne pas s'ajuster éventuellement à toute cette. Je pourrais même inclure les défenses adaptées là, dans mon commentaire.
Ouais, en fait, bon, tu as bien fait de le mentionner, parce que ça, c'est un autre aspect. Est-ce que les frappeurs s'élancent plus qu'auparavant? Puis la réponse, c'est non. Le taux d'élan par lancé, c'est à peu près pareil là, dans les bon, d'une année à l'autre. Moi, je pensais honnêtement que ça avait baissé un peu, là. Les fluctuations ne sont pas significatives là, de 1990 à aujourd'hui. J'avoue que ça m'a étonné. Personnellement, je pensais que l'approche avait changé un peu. Mais
Surtout avec
juste
Moneyball,
pour.
hein?
Ben, écoute, puis moi, si je résume un peu ce que tu me dis, dans le fond, c'est que malgré la vélocité qui amène plus de retrait sur des prises, tu mets beaucoup plus l'accent sur l'approche des frappeurs que sur la vitesse proprement
Ben,
dite pour expliquer les retraits sur des prises, là.
combinaison des deux, Alain, tu sais, ça reste que même si le joueur d'aujourd'hui voit beaucoup plus de balles, 95 000 à l'heure plus qu'il y a à peine 10, 12, 15 ans,
Oui.
donc est capable à l'œil de s'adapter, ça reste que c'est. Tu sais, je veux dire, à 90 000 à l'heure, ça prend 0,4 secondes à prendre ta décision, je mélange ou je ne mélange pas. Vous comprenez qu'à 100 000 à l'heure, on est à l'intérieur de ce 0,4 secondes-là. Donc,
Oui.
ça reste difficile. Mais je pense qu'il peut y avoir un effort davantage chez les frappeurs pour trouver une solution à ça. Et rapidement, et dans cette approche-là, je sais que ce n'est pas l'approche que l'on voit là, récemment en raison de Moneyball, d'être patient parce que le but sur balle vaut, évidemment, bon, on connaît la chanson à ce niveau-là. Mais j'aimerais revoir un peu plus de frappeurs qui attaquent la zone des prises tôt dans le compte. Combien de
Ouais.
fois je te dis, Alain, tu as un bon tir par présence au bâton et souvent, c'est parmi les deux premiers tirs. Mais faut que je sois patient. Puis oui, tu as peut-être tiré un but sur balle, mais tu as peut-être manqué l'occasion de frapper un double dans l'allée en étant peut-être un peu patient. Donc, tu sais, c'est un hybride de tout ça, là, d'être patient, mais peut-être d'avoir une approche un petit peu plus agressive, je ne sais pas si c'est le bon terme, là, en début de compte, et d'avoir évidemment une approche plus contact à deux prises, mais qui, dans le fond, n'enlève pas de puissance.
Oui. Un peu comme Anthony Rizzo le fait, c'est peut-être celui que c'est l'exemple
Exact.
qui me vient le plus près en tête, lui qui coupe son bâton de façon assez importante après deux prises. On verra comment les tendances vont se poursuivre au cours du mois de mai. Il y a un mois de fait, il en reste encore cinq. Est-ce que le beau temps va faire en sorte que la balle va voyager davantage, que les statistiques offensives vont augmenter? Écoute, tout ça est à voir. Il y a des blessés aussi. Bon, bref, on va surveiller ces chiffres-là. Toujours est-il qu'il se marque quand même par équipe plus de 4 points par match. C'est presque 9 points par match donc. On est loin là, de 1968 où Bob Gibson avait fini la saison avec une moyenne de points mérités de
Ouais.
1,12. On n'est pas là encore, là. Je pense qu'on ne baissera pas le monticule à nouveau là, pour tenter de favoriser des frappeurs, là. Je pense qu'on a atteint la limite à cet effet-là. Ce sera donc à surveiller.
Fais
Ça
attention par
complète.
contre, Alain,
Oui.
fais
Oui.
attention parce que dans la Ligue des pionniers,
Oui.
on veut reculer le monticule d'un pied. Alors, je vais juste dire ça. J'espère, pour moi, ça ne fait pas de sens, mais tout
Non.
à coup que le baseball trouverait ça intéressant. Imagine-toi. Le nombre de terrains de baseball qu'il faudrait modifier et la façon de lancer aussi. En tout cas, ça sera pour un autre sujet, là, mais
Ouais.
je suis d'accord avec toi. On ne devrait pas toucher à ça. On devrait garder tel quel et laisser les frappeurs
Ouais.
s'adapter à la situation.
Il y a des départements des loisirs en Amérique du Nord là, qui surveillent ce qui se passe dans la Ligue des pionniers pour être sûr que ça ne marche pas parce qu'il y a des changements qui vont coûter cher à certaines municipalités. Ça complète ce compte complet. Je vous donne rendez-vous, mesdames, messieurs, à notre prochain match. C'est dimanche. On vous a parlé de la section Est de la Ligue nationale. Ben justement, on verra des Braves d'Atlanta qui vont jouer contre les Phillies de Philadelphie. On espère que la concentration et les gants des Phillies sera meilleure que ce qu'on a vu contre les Mets de New York au cours du dernier dimanche. Je vous souhaite une bonne semaine, Marc. On se revoit dimanche. Mesdames, messieurs, faites attention à vous. À la prochaine.